Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Amen, amen. Et le péché sera sans force devant toi. La force est en Christ. Oui, en Christ, nous sommes rendus capables de vivre une vie sans péché. En Christ et en Christ seul. Alléluia. Oh, alléluia. En lieu sûr, et le thème que nous abordons depuis plus de trois dimanches maintenant, en lieu sûr. Et nous avons dit que ce lieu sûr n'est rien d'autre que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. En lieu sûr. Nous voulons lire encore notre texte d'Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 4, même à partir du premier verset pour une meilleure compréhension. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Ensemble, nous disons Amen. Oh, alléluia. En Christ. Mais il nous est dit que, avant d'être en Christ, nous étions comme ceux qui sont aujourd'hui de l'autre côté de la clôture, de l'autre côté de la frontière. Nous étions comme eux. Plaise à Dieu que tu sois en train de conjuguer les choses au passé dans ta vie. Est-ce que tu dis j'étais ou bien que tu y es encore aujourd'hui de l'autre côté? Parce que il est important d'avoir quitté l'autre côté. Oh, amen, amen. Alléluia. Il est important de surveiller nos bornes. Il est important de surveiller nos frontières. Parce qu'il y a une frontière qui nous sépare de cet autre monde là où nous étions avant. Il y a des gens qui s'approchent dangereusement de la frontière, de la ligne de séparation. Et quelquefois même, ils ont traversé la ligne de séparation sans le savoir. Alors, ils commencent à continuer à se réclamer. C'est comme un Congolais qui continue à se réclamer d'être au Congo alors qu'il est de l'autre côté de Rwanda. Parce que quand vous arrivez dans la frontière, c'est une frontière naturelle. Donc Rwanda et Congo, vous ne savez pas toujours. Vous pouvez sortir, il y a des maisons, vous entrez par là, c'est le Congo. Quand vous sortez par la porte de derrière, c'est le Rwanda. Oui, j'ai été là, je vous dis ce que j'ai vécu. Donc vous ne savez pas maintenant où est-ce que vous êtes, au Rwanda ou bien vous êtes au Congo. Alors sur le plan spirituel, il y a aussi des gens comme ça qui blaguent, qui jouent avec les frontières. Et qui sont en train de jouer. Maintenant, ils se disent, non, je suis dans le Seigneur. Je suis dans le Seigneur. Alors qu'ils ont traversé de l'autre côté. Ainsi, ceci les réconjugué, ils sont un pied dedans et un pied dehors. Vous parlez au passé de cette vie-là, ou bien vous la parlez, vous la conjuguez au présent. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Paul parle de cela au passé. Il dit, autrefois vous étiez cela. Autrefois vous marchiez dans cette voie-là, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et il se met lui-même dans le paquet en disant, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair. Mais quand il arrive au verset 4, il dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, alléluia, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Voilà notre endroit. Nous sommes en Christ. Et Christ lui-même assis, étant assis à la droite de la majesté divine. Alléluia. Nous sommes, bien-aimés, nous sommes en Christ. Il faut toujours se poser des questions. Est-ce que je suis encore en Christ? Il ne suffit pas de voir le langage des Canaan pour penser qu'on est en Christ. On est resté longtemps dans l'église, on sait comment on chante, on sait dire shalom. On a un langage des Canaan, on a un langage de l'église, mais on n'est pas soi-même membre de l'église. On peut passer un bois, un morceau de bois, coupé, jeté dans notre fleuve du Congo, peut rester là-bas 15 années. Ce n'est pas pour autant que le morceau de bois, 15 ans après, va se réclamer de la race des poissons. Il demeure morceau de bois et même gâté, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un miracle pour que ce morceau de bois-là puisse être transformé en poisson. Un miracle. C'est pourquoi nous disons, tu peux être dans l'église sans être chrétien parce qu'il n'y a pas eu le miracle qui transforme un païen en chrétien, qui ne s'est pas opéré en toi. Et le miracle est disponible à la portée de chacun d'entre nous. Il suffit d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et de se décider de pouvoir donner le dos au monde et de vivre pour le Seigneur. On devient en ce moment-là enfant de Dieu. On est assis en Christ Jésus. Quelqu'un dit amen. En lieu sûr, c'est Christ lui-même. Alléluia. Ainsi, nous sommes en sécurité et nous sommes protégés en lieu sûr. Nous étions en train de finir avec cette bénédiction que nous avons en Christ Jésus-Christ. Il nous a été dit dans Matthieu 6 de ne pas s'inquiéter de ce que nous mangerons, de ce que nous allons boire, de ce que nous serons vêtus. Mais le sujet de notre inquiétude doit être de nous rassurer que nous sommes dans le royaume. Il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Bien-aimés, il y a la bénédiction que nous avons en étant en Christ. Et Philippiens 4, 19, Paul dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Et nous disions que Dieu n'a pas dit qu'il nous bénira en fonction de la famille, notre famille de provenance. Non. Tu es malheureux si tu ne comptes que sur ta famille de provenance, même si papa a quelque chose. Et le Moulouba dira, « Kantukubianza, mon père, Anna. » Mais le kantukubianza d'un homme peut se volatiliser, n'est-ce pas? Mais le kantukubianza du Père Céleste ne se volatilise pas. Oh, alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas dit qu'il nous bénira selon notre, ou en fonction de notre travail, ou selon la hauteur de notre enveloppe salariale. Gloire à Dieu pour le travail que vous avez. Gloire à Dieu pour le travail que nous avons. Mais c'est dire que je suis heureux par cause de mon salaire, tu es malheureux. Ce qui fait notre joie, c'est la provision que nous avons auprès du Père Céleste. Elle dépasse de loin cette enveloppe que nous avons à la fin du mois. Et je disais, vous savez, dans d'autres pays, si vous ne savez pas justifier d'où vient votre argent, vous faites de la prison. Mais les enfants de Dieu peuvent être condamnés chaque jour. Parce que Dieu pourvoit. Amen, amen. Et nous vivons au-delà de nos salaires. C'est pas vrai? Imagine, regarde bien, c'est Dieu qui pourvoit. Alors Dieu, ne cherche pas à marcher avec Dieu en t'accrochant à ton salaire. Non. Il y a même des gens qui sont ridicules. Malheureux, qui s'accroche à leur salaire. Il a reçu son salaire de 1 000 $. Il commence à réfléchir. Dois-je donner 100 $ de dîme? Il commence à tergiverser. Il commence à souffrir. Tu es malheureux parce que mon Dieu peut te donner 1 000 $ fois 10, fois 100. Il est capable de te le donner quand tu en as besoin. C'est pourquoi il ne faut pas trembler devant l'argent. Quand tu as besoin d'argent, papa a l'argent. Papa te donnera de l'argent. Alléluia. Mais alors, quand je reçois quelque chose, j'enlève le 10%. Et même, je peux enlever au-delà de 10%. Je donne à Dieu. Parce que tout me vient de lui. Je ne négocie pas avec lui par rapport à la dîme. Je ne commence pas à souffrir dans mon cœur, oh non, 100 dollars. Il y a d'autres qui disent, bon, quand 100 dollars, c'est 100 dollars, ça va encore. Mais quand ça devient, il doit donner 10 000 dollars de dîmes. Il dit, 10 000 dollars, ce n'est plus à Dieu. Il dit, c'est à Kali que je vais donner. Ah bon, maintenant ça devient Kali. Tu ne me donnes pas de l'argent. Tu ne me donnes pas de l'argent, c'est l'argent du Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. On ne triche pas avec Dieu. Non, on ne triche pas avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'a pas dit qu'il nous bénira en fonction de nos petites économies. Il n'a pas dit qu'il nous bénira en fonction de la richesse de la famille, de notre famille. Non, non, Dieu n'a pas dit cela. Mais il a dit, il te bénira selon sa richesse en Jésus-Christ. La bénédiction n'est pas forcément synonyme de monnaie. Trébuchante, non. La bénédiction n'est pas palpable forcément. L'enrichissement, je l'ai dit, je ne sais pas quel culte, je l'ai dit que l'enrichissement n'est pas forcément synonyme d'être béni. Il y a des gens qui ont beaucoup de biens mais qui ne sont pas sous la bénédiction. Ah oui, je t'ai dit. Tu es en train de l'envier de loin, mais c'est une personne qui est sous la malédiction. La bénédiction n'est pas avec lui. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de biens que c'est synonyme d'être béni, non. Mais un homme béni est un homme qui peut s'enrichir. La bénédiction, c'est la déclaration. C'est dire du bien de toi. Lorsque Isaac vient devant son père, que dis-je? Lorsque Jacob vient devant son père a dit à Ésaü, son aîné, « Va me chercher à manger et le gibier, viens, je te bénirai. » C'est Isaac qui a fait la nourriture, que dis-je, Jacob qui a fait le repas, qui a amené le repas, et Isaac a fait quoi? Isaac lui a donné de l'argent, des troupeaux. Isaac lui a donné la bénédiction qui est sortie de sa bouche. Il a béni son fils. Lorsque Jacob sortait de la maison de son père pour aller au pays de Laban, Jacob est sorti avec son bâton uniquement. Il n'avait pas autre chose. Mais où est donc la bénédiction qui lui a été donnée par son père? Il a reçu la bénédiction de l'aîné, non? Où est donc la bénédiction? La bénédiction était sur lui. Je parle à quelqu'un. Mais il n'avait rien. Je crois qu'il a eu des difficultés pour se nourrir chemin faisant. Mais ce n'est pas parce qu'il a manqué de nourriture chemin faisant qu'il n'était pas béni. Cet homme avait la bénédiction sur lui. Mais quand il revient de chez Laban 20 ans après, et vous savez, quand vous lisez bien la Bible, comment est-ce que ce n'est pas Laban qui lui a payé le salaire, hein? C'est Dieu qui lui a donné en ce moment. Il y a des moments où la bénédiction doit se manifester. Elle peut rester cachée pendant longtemps, mais elle finit par se dévoiler pour dire que j'étais là. Amen, amen. Dieu dit quoi dans Proverbe? C'est la bénédiction de l'Éternel et ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction enrichira. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. L'enrichissement n'est pas la bénédiction, mais la bénédiction peut enrichir quelqu'un. Oh, alléluia. Quand il revient de chez Laban, il a des troupeaux, il a des biens incommensurables, au point même qu'il est obligé de les scinder en deux camps. Et il déclare lui-même, « Quand je suis parti de la maison de mon père, je n'avais que mon bâton. Maintenant, je rentre avec des bien-aimés dans le Seigneur. » Joseph se retrouve en train d'être vendu en Égypte dans la tenue d'Adam. Parce qu'on doit voir si l'esclave n'a pas de défauts corporels. Et plus il y a de défauts corporels, moins il est facturé. Alors on va le tourner comme on vendrait un poulet poisson, n'est-ce pas? On le retourne dans tous les sens et l'on dit que non, il est un homme béni. Oh non, il a dit, moi ici j'ai vu le soleil et la lune se prosterner devant moi. Toi qu'on va nu comme ça ici, vous ne comprenez rien, vous ne voyez rien. Sur moi il y a la bénédiction de l'Éternel. Un jour vous verrez cette bénédiction là. Mais elle est sur moi, bien-aimé dans le Seigneur. Et ils n'ont eu qu'à le temps d'applaudir Joseph lorsqu'il devient premier ministre. C'est en ce moment qu'il dit, cet homme est terrible. Non, il était déjà terrible avant. La bénédiction était déjà sur Joseph avant. Le problème c'est quoi? Une fois que tu es en Dieu, la bénédiction est sur toi. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un certain Williams compare ces versets de Philippiens 4, 19. à un chèque tiré sur la banque de la foi. J'ai tiré donc quelque chose en lisant donc mes ouvrages. Et il dit quoi? Il dit, quand on dit « Et mon Dieu pourvoira », il dit « Et mon Dieu signifie le nom du banquier. Pourvoira signifie la promesse de paiement. À tous vos besoins signifie valeur du chèque. Selon sa richesse signifie capital de la banque. Avec gloire signifie siège social de la banque. En Jésus-Christ signifie la signature au bas du chèque sans laquelle celui-ci serait nul. » Il y a un chèque et la signature, c'est le nom de Jésus-Christ. Sans la signature, le chèque est nul. Vous savez, vous-même, vous ne pouvez pas retirer de l'argent s'il n'y a pas la signature au bas du chèque, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ est la signature par excellence. Oui, tout se passe en Jésus-Christ. En lui, voilà notre lieu sûr. En Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. En Jésus. Mais une fois en Jésus-Christ, je l'avais dit, qu'une fois en Jésus-Christ, Dieu a prévu des choses que nous devons mettre en pratique. Au verset 10 d'Éphésiens 2, il est dit ceci, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous sommes créés, venus dans ce monde, par Dieu a utilisé papa et maman. Là, c'est une création physique. Mais en Christ, nous sommes recréés. C'est pourquoi Paul, dans 2 Corinthiens 5, 17, dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes, est-ce que chez toi, les choses anciennes sont passées? Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Les œuvres que nous sommes appelés à pratiquer, nous les trouvons une fois que nous entrons en Christ. Elles ne sont pas en dehors de Christ pour que nous puissions dire que c'est parce que j'ai fait ceci et que j'ai fait cela que j'ai mon ouvrage ayant été créé en lui pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Désormais, nous ne connaissons plus les œuvres que nous pratiquions autrefois au-delà du rideau. Christ est comme ces rideaux-là qui séparent le monde d'avec la vie chrétienne. Désormais, nous sommes à Christ. Nous nous affectionnons aux choses d'en haut où Christ est assis à la droite de la majesté divine. Colossiens chapitre 3, verset 1, verset 2. Alléluia. Alléluia. Alors pose-toi la question de savoir, est-ce que tu pratiques les choses que Dieu a créées en étant en Christ, que Dieu a préparées en étant en Christ, ou bien tu pratiques les choses d'autrefois? Ou est-ce que tu pratiques les choses d'autrefois? Quand vous prenez Romains 6, Romains chapitre 6, versets 5 à 7 et 11 à 13, il est dit ceci. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Non, n'obéissons plus au péché, bien-aimés dans le Seigneur. N'obéissons plus au péché. Ne vivons plus, Seigneur, selon le monde. Non, nous avons fini avec le monde. Nous sommes en Christ. Tout se passe en lui. En lui, voilà notre lieu sûr. En Jésus. Ne sortez pas de Jésus. Ne faites pas comme l'histoire du monsieur les cafards. Monsieur les cafards.
l'impez-vous. Hein? Monsieur le cafard est en lieu sûr, dans une bouteille transparente, et quand vient monsieur le coq, était en train de faire son voyage, il arrive, il trouve cet endroit-là transparent. Et il voit, il constate qu'il y a un habitant là-bas. Mais cet habitant est intéressant, ça fait partie de sa nourriture. Il dit, mais tiens, je ne peux pas continuer mon voyage, surtout que je suis fatigué. J'ai ma nourriture ici, je mange d'abord et puis je peux continuer. C'est-à-dire quoi? Lui, il trouve que c'est sa nourriture, mais l'autre, c'est un danger. C'est la cessation de sa vie. Alors l'autre commence à trembler. Lui aussi sait que ce monsieur-là a l'habitude de me bouffer. Mais il est où c'est? Il est dans une bouteille. Et quand monsieur le coq vient avec son bec, commence à picoter sur la bouteille, monsieur l'impez-vous, le cafard commence à trembler, à sillonner, à courir dans la bouteille là où il a dit, mais c'est fini, il m'a vu. Mais il ne réfléchit même pas qu'il a déjà donné beaucoup de picotements, mais il ne m'a pas eu. Non, lui, dans sa peur, il cherche à sortir. Il monte et puis il sort. Il tombe. Il est à la portée maintenant de son ennemi. Il est en dehors de son lieu de sécurité. Il est sorti, il est en dehors de son lieu de protection. Le coq dit, mais petit, mais je vais continuer ma route après t'avoir mangé. Et le coq le bouffe. C'était la faute de la bouteille? La bouteille est restée en place. Mais malheureusement, lui est sorti de la bouteille et il a été consommé. C'est une illustration. La bouteille, c'est Christ. Les cafards, c'est toi et moi. Si nous restons dedans, malgré la présence de nos adversaires, nous sommes mis au large. Nous sommes mis au large, protégés. Ne tremblons pas. Parce qu'avant qu'il ne puisse nous éliminer, il doit éliminer d'abord la bouteille. Or la bouteille, cette bouteille dont nous parlons ici, on ne peut pas l'éliminer. On ne peut pas la casser. La Bible parle de lui comme étant, on dit que son nom est une tour forte. Le juste est sur réfugié et se retrouve en sûreté. Jésus-Christ, son nom est une tour forte. Quelqu'un dit amen. Oh, j'ai dit que son nom est une tour forte. Pendant que je parle de ce nom, rapidement, allez-y avec moi dans Hébreux chapitre 1er. Dans Hébreux chapitre 1er, au verset déjà 4, il dit quoi? Jésus est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Et quand vous arrivez au verset 13 et 14, il dit, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied? Ne sont-ils pas, on parle des anges maintenant, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen, amen. C'est ainsi que je disais dimanche passé, d'où viennent que les gens commencent maintenant à vous apporter les ministères, de vous parler du mystère ou le mystère des anges. On veut spiritualiser les choses. C'est comme si on veut vous miroiter. Les anges, mais les anges existent. Amen. Mais les anges, ce n'est pas nous qui les commandons. On dit que les anges, qu'est-ce que la Bible a dit? Sont des esprits au service de qui? Ils ne sont pas à ton service. Les anges sont au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ils sont envoyés pour exercer un ministère pour toi. Mais ils sont au service de Dieu. J'entends quelqu'un dire, yes, on m'a raconté une histoire qui m'a fait rire. Un prédicateur est en train de prêcher, et puis il s'arrête et dit, je vois mes anges viennent d'arriver. Alors j'arrête la prédication. Waouh! Mes anges viennent d'arriver. Moi, je me levais. Ah bon? Toi, quand tu nous prêchais ici, tu n'avais pas des anges. Allez, sors d'ici. Donc, toi, tu faisais le ministère avec comment? Donc, c'est tes anges viennent d'arriver. Et Dieu qui est omniprésent, il était où? Tu veux impressionner les gens en disant. Et tu prends un air spirituel. Oh, je vois mes anges viennent d'arriver. Mes anges viennent d'arriver. Ça, c'est un mensonge. Et les chrétiens du Congo, les chrétiens de Kinshasa, par-dessus, quoi, aiment ça. Et ils trouvent que c'est spécial. Les anges viennent d'arriver. Non, les anges sont toujours avec nous. Savez-vous combien des anges y sont à cet endroit ici? Amen, amen. Élisée, je crois que c'est Élisée,
Son serviteur tremble parce que les ennemis viennent d'arriver. Il sort, il voit des ennemis. Il te dit, nous sommes qu'à deux, mais ils sont nombreux. L'âme de Dieu est tranquille, détendue. Et il va lui dire, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que eux. Et il va dire à Dieu, Dieu, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Tu dois savoir seulement qu'ils sont là. Et dès que Dieu lui a ouvert les yeux, cet homme a vu que il y avait une forte armée, plus grande que celle qui venait contre eux. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas. Et même nous n'avons pas besoin d'être conduits par les anges. L'homme de l'Ancien Testament déjà lui a dit, non, pas les anges, toi-même. Moïse a dit, non, Dieu lui dit, écoutez, désormais je ne marcherai plus avec vous, mais au moins je vais vous envoyer un ange. Qui marche. Moïse dit, Seigneur, pardon, si c'est un ange, nous allons rester ici. Mais pour que nous puissions continuer, c'est comme s'il voulait dire à Dieu, l'ange là, ne fait des choses que dans les limites de la responsabilité que tu lui accordes. Mais il peut y avoir des imprévus sur le chemin. Et l'ange doit d'abord rentrer pour te faire un rapport. Non. Nous voulons que toi-même, tu marches avec nous. Bien-aimé, dis à ces gens-là, ils sont en retard. Nous n'avons pas besoin d'un ange, nous avons besoin de Dieu. Lorsque lui verra qu'il y a besoin d'un ange pour pouvoir intervenir, il enverra un ange. Alléluia. Alléluia. Il y a trop de choses dans notre ville. Trop de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, rassurez-vous que vous êtes en Christ. Le problème, c'est quoi? On veut vous prêcher des anges et des gens tout en vous laissant dans les péchés. Oui. Et même vivre dans les péchés. Regardez comment est-ce que le divorce est entré même dans l'église. Les hommes de Dieu divorcent le matin et se marient à midi. Mais ça vient d'où ça? Ça vient d'où? C'est diabolique ça. Oh, amen, amen. C'est diabolique. On accuse sa femme de sorcière parce qu'on était en train d'envier la petite fille qui était dans l'église là-bas. On était en train toujours de jeter le regard. Au lieu de crier, Seigneur, sauve-moi! Mes yeux sont en train de convoiter. Non, on veut accuser sa femme de sorcière. On la met à la porte pour épouser une autre. Mais demain après, celle-là aussi deviendra véritablement sorcière. Tu chercheras la quatrième. La sanctification, où est-elle dans la maison de Dieu? Non, laissez-moi cette affaire avec le mystère des anges. Les anges, je crois, bien-aimés, je crois à la présence des anges. Mais ce n'est pas à moi de chercher à tout prix. Dieu, quand il voit que... Je vous ai expliqué ici, je ne sais pas si c'est le troisième culte. Il y a des gens qui ont vécu l'expérience, un accident grave. La voiture est chiffonnée pratiquement, mais lui est au bord de la route assis. Son cœur en train de battre à l'aide à 240. Je ne sais pas, tu ne sais pas, c'est un ange qui est venu, qui t'a pris, qui t'a placé là-bas. C'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce qu'il a invoqué « Ange, viens me prendre ». Non, je vois mes anges viennent d'arriver. Oh. Alors quand tu nous prêchais, tu nous prêchais avec quoi? Quand tu nous prêchais là, tu nous prêchais comment? Je vois mes anges viennent d'arriver. Et surtout les jeunes gens. Les jeunes gens à Kinshasa, ils courent dans tous les sens. Vous ne remarquez pas tous ces jeunes gens, ils deviennent tous des prophètes. Vous vous demandez, ils viennent d'où? Qui les a établis prophètes? Prophète Songolo, prophète Pakala, prophète Kabatumpi, prophète Chantakwe. Toujours des prophètes à gauche et droite. Des prophètes. J'ai vu un jeune homme là. Il devrait avoir. Quand j'ai vu la photo, comme les affiches, tout le monde commence à donner de l'argent aux jeunes gens. J'ai vu l'affiche. Il devait avoir 21, 22 ans. J'ai dit, regarde, Seigneur, qu'on ne le croque pas par Satan. On blague avec le ministère? Vous pensez que c'est facile? Donc venir tout le temps, donc venir à la chair. Et comme maintenant la politique, c'est quoi? C'est louer une salle. On n'a pas de... Toi, tu es... Qui est ton père spirituel? On loue une salle et on fait un titre pompeux. Les quatre pas pour vivre la prophétie de ta vie. Et tu es impressionné. Hey, la prophétie de ma vie. Voici la prophétie de ta vie. Voici la prophétie de ta vie. Et on ne veut pas de la prophétie de sa vie. On veut qu'on... En fait, c'est quoi? On fait des gens de serviteurs de Dieu, de féticheurs. Mais oui. Vous aimez les serviteurs quand vous arrivez. Il commence, il rentre comme en transe. Et puis ses yeux, les parties noires ne se voient pas. Vous commencez à voir seulement les blancs de l'œil. Et puis vous dites, oh, il est spirituel. Oh, il est puissant. Il est puissant. Entrons en lieu sûr. J'ai dit, entrons en lieu sûr. Jésus-Christ est le lieu sûr. Alléluia. Jésus-Christ est le lieu sûr. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème c'est quoi? On ne veut pas abandonner le péché, mais on veut avoir la prophétie. On veut avoir la prophétie. Regardez comment, quand je parle avec des jeunes gens, quelle légèreté. Des jeunes gens avant le mariage, ils ont déjà couché une fois, deux fois. Même quand tu poses la question, vous avez déjà couché combien de fois? Ils commencent à gratter la tête. Et puis ils ne savent pas. Il n'y a que les mariés qui ne savent pas combien de fois ils ont couché ensemble. Mais toi, tu n'es pas marié, tu ne sais pas combien de fois vous avez couché ensemble. Donc vous êtes déjà mariés. Vous n'avez pas besoin qu'on vous marie. Allez-y vivre ensemble. Et j'ai dit désormais, parce que nous commencions, nous sommes tombés dans un piège. Oh non,
elle est grosse.
Là, on a déjà affiché. Hein? Donc non. Comme on les a dit, bon, vous ne portez pas de voile. On dit, c'est pas, ça ne fait rien. Ils viennent. Et avec pompé, hein? Toutes les familles sont là. Ils sont dans la joie. Vous êtes dans la joie. Au lieu d'être dans la tristesse. Et nous avons dit désormais, grossesse, allez vivre. 6 mois après, une année après, nous allons demander la bénédiction de Dieu sur vous. Vous êtes déjà mariés, allez vivre ensemble. Les gens ne veulent pas abandonner le péché, ils veulent les prophéties. Vous voulez, quand vous venez ici, je dis, oh, je vois combien tu vas prospérer. Je vois combien tu vas devenir grand. Grand, grand. Dieu nous a déjà dit qu'il fera de notre nom grand. Alléluia. Pour que Dieu dise à Abraham, tu seras grand, il a fallu qu'Abraham sorte. Toi, tu es sorti. Tu es encore là, en train de te vautrer dans les péchés, et tu veux être grand. Un prophète qui est ici, un jeune homme qui est ici. Je suis passé quelque part, je ne vais pas citer le pays. On me raconte son histoire. Il est en train de prophétiser sur une femme dans l'église. La femme avait quelque chose comme ça. Maintenant, son alliance ne se voyait pas. Je ne sais pas est-ce qu'il avait le mouchoir ou quoi. Il prophétise, il dit, Dieu est en train de me montrer, tu vas avoir un mariage béni, un homme fantastique, un homme. Il dit des choses. Et l'église disait amen. Mais ceux qui savaient, ils se sont regardés, oh, prophète Abeti Poto. Il ignorait que la personne était mariée. Vous aimez ça, non? Quelquefois, on vous raconte des mensonges. Lisez la Bible, il y a des faux prophètes. Dieu condamne les faux prophètes. Il dit, vous racontez des choses que je ne vous ai pas dites. Vous racontez des choses que je ne vous ai pas dites. Et le peuple de Dieu aime ça. Ils aiment ça. Et pourtant, vous laissez la bénédiction à côté de vous. Il suffit de rester en Christ, marchant dans la crainte de son nom, qu'au temps de Dieu, la bénédiction de Dieu vient naturellement. Elle vient naturellement. En lieu sûr, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons être en lieu sûr. En lieu sûr, c'est là que nous devons être. Je vous ai parlé de cette histoire de nombre 23. Balaam a été invité par le roi Balak pour maudire le peuple d'Israël. Quand Balaam ouvre la bouche pour maudire Israël, c'est la bénédiction qui sort de la bouche. Et qu'est-ce que Balaam dit? Ne dirais-je pas ce que Dieu met dans ma bouche? Dieu les a bénis. Qui suis-je? Qui suis-je moi? Mais plus tard, malheureusement plus tard, ce peuple a été maudit. Vous savez pourquoi? Comment est-ce que ce peuple qu'on n'a pas su maudire pendant tout ce temps, finalement la malédiction tombe? Finalement la malédiction tombe sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Vous avez la réponse dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Que je peux retrouver le verset. Mais avant Apocalypse chapitre 2, non, allons-y d'abord dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, il est dit ceci. Dieu est en train de s'adresser à l'église de... C'est Pergame. C'est quel verset? Chapitre, j'étais en chapitre 3. Chapitre 2. Au verset 14, en s'adressant à l'église de Pergame, Dieu dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, c'est presque la même doctrine, la licence, pour que la malédiction frappe Israël au temps de Balaam. Balaam a donné un mauvais conseil à Balak. Il dit, si nous continuons comme ça, tu ne peux pas maudire. On ne peut pas les maudire. Pourquoi? Écoutez ce qu'il dit au verset, donc au chapitre 23. Au chapitre 23, écoutez ce que Balaam est en train de dire. Au verset 20 et verset 21. Il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. verset 21, voilà la clé. Voilà la clé. Voilà ce qui fait que Balak ne puisse pas maudire Israël. Verset 21. Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Voilà la raison qui fait que la malédiction ne tombe pas sur Israël. Il n'y a point d'iniquité au milieu d'eux. Ils sont en train de sanctifier leur Dieu jour après jour. Ils sanctifient leur Dieu. Alors Balaam lui dit, tant que nous continuerons comme ça, la malédiction ne tombera pas sur eux. Ils ne seront pas maudits. Il va lui donner un conseil. Bazakara faible. Sokotini ba fille, des belles filles. Ils vont tomber et le péché va entrer au milieu d'eux. Et nous n'aurons même pas besoin de déclarer la malédiction. Tu sais que quand tu vis dans le péché, tu n'as pas besoin d'être maudit. Hein? Le salaire du péché, c'est la vie. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort. Alors quand tu es en train de... La mort est en train de te frapper, tu commences à dire, oh noko, non, non, côté, ndoki yabomu inayo, yo moko. Le péché était maudit. Et quand vous lisez le chapitre 25, on dit, Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença, écoutez ça, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, non seulement la débauche, mais maintenant l'idolâtrie. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Vous avez entendu Balaam prononcer la malédiction là? La colère de l'Éternel s'enflamma. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par les bas-ventres, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Pour que la plaie s'arrête, le péché doit être mis dehors. Balaam n'est plus rentré avec Balak pour dire, je vous maudis Israël. Non, le péché une fois entré, la malédiction a frappé. C'est comme si ils sont sortis de l'enclos de sécurité. Ils sont sortis de lieux sûrs de protection. Alléluia. Dieu a condamné le monde au temps de Noé. Les déluges sont tombés, n'est-ce pas? Mais Noé était dans une... Noé était dans l'arche. Ceux qui étaient dans l'arche ont survécu. Mais ceux qui étaient en dehors de l'arche ont été frappés de mort. Jésus est l'image de cette arche-là. En lui, autour de lui, les gens tombent. Mais en lui, les gens restent debout. Ainsi, le psalmiste dit, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 tomberont à ta droite. Mais toi qui es en lieu sûr. Parce que à l'introduction du psaume, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Toi qui demeures à l'abri du Très-Haut, toi tu ne tomberas pas. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 tomberont à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Oh, est-ce que vous entendez la parole du Seigneur? Jésus est ce lieu sûr, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est le rocher de notre provision. Amen, amen. Moïse, pour finir, va dire à Dieu, je veux voir ta gloire, Exode 33. Je veux voir ta gloire. J'aimerais voir ta gloire. Dieu dit, mais ce jeune homme veut voir ma gloire. Dieu réfléchit, comment lui faire voir ma gloire? Dieu lui dit, Moïse, personne ne peut voir, me voir de face et rester vivant. Personne. Mais Dieu réfléchit, dit, oh, il faut que je lui trouve un lieu sûr. Amen, amen. Il dit, je te placerai, j'ai trouvé un lieu près de moi. C'est ce que Dieu dit. J'ai trouvé un lieu près de moi. Ce lieu près de lui, c'est quoi? C'est une personne.
C'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse des ménages. J'ai trouvé un lieu près de moi. Il dit, je te placerai dans les creux du rocher et je te couvrirai de ma main. Quand je passerai, tu pourras au moins me voir. Hein? Tu pourras au moins me voir du dos. Le seul endroit où nous pouvons voir la gloire de Dieu, c'est en Christ. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Le seul endroit où nous pouvons observer la gloire de Dieu et continuer à vivre, c'est en Christ. Dieu a placé Moïse dans les creux du rocher. Et Jésus-Christ est le rocher des âges. À la croix de Golgotha, il a connu les creux. On l'a blessé, il a reçu des clous entre ses mains. N'est-ce pas là les creux? Il a reçu des clous entre ses pieds. Quand un des apôtres a dit, je ne croirai pas jusqu'à ce que j'introduise mes mains dans ses doigts. Quand Jésus-Christ les a apparus, il dit, Thomas, regarde. Tu peux venir introduire ton doigt dans les trous qui sont restés, les marques. C'est les creux. Spirituellement, nous sommes en Christ. Moïse a été placé dans les creux du rocher et il a pu contempler la gloire de Dieu. Tant que tu resteras en Christ chaque jour, tu contempleras la gloire de Dieu. Tu expérimenteras la gloire de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu marcheras dans la gloire de Dieu. Tu seras conduit par la gloire de Dieu. Bien-aimé, Jésus est le lieu sûr. Et nous avons besoin de demeurer en ces lieux sûrs. Le temps me manquerait de vous parler des villes de refuge. Ah, je n'ai pas le temps. Quand Dieu le permettra, nous évoquerons les villes de refuge. Mais Jésus-Christ est l'image de cette ville de refuge. Où est-ce que tu es? En Christ ou en dehors de Christ? Nous courbons nos têtes dans la prière. Le monde cherche la facilité. Or, la facilité est en Christ. On court après les serviteurs de Dieu. Ô homme de Dieu, dis-moi, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a laissé son message. Le Saint-Livre. Ce matin, y a-t-il quelqu'un qui s'est dit, pasteur, j'aimerais régler cette affaire avec Jésus. Longtemps, j'ai résisté à ce message. Mais j'aimerais entrer en Christ. J'aimerais faire de lui mon lieu sûr, mon lieu de sécurité. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Tiens-toi debout rapidement là où tu es. Et nous aimerions prier pour toi et avec toi. Et Dieu te bénira. Merci, merci ma sœur. Merci pour vous tous qui vous levez. Merci mes frères. Que ça ne soit pas trop tard pour toi. Aujourd'hui, prends l'engagement d'entrer dans ton lieu sûr. Tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Je vais lancer l'appel en deux temps. Là, j'invite d'abord ceux qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus. Vous êtes en dehors de Jésus, vous vivez comme bon vous semble. Vous allez voir les féticheurs, vous allez même voir des prophètes pour qu'ils vous disent des choses. Mais vous êtes en dehors de Christ. Tiens-toi debout. Au bâtiment administratif, là où vous êtes. Dehors, là où vous êtes sous des tentes. Veuillez vous lever, là où vous êtes. Puisque vous comprenez que vous êtes en dehors du lieu sûr. Vous n'êtes jamais entré. Christ vient à vous. Merci. Merci, restez debout. Deuxièmement, maintenant, deuxième appel. Je lance l'appel à ceux qui brûlent les frontières. À ceux qui se disent, j'ai donné mon cœur à Jésus, mais ils sont en train de vivre selon les conseils de Balaam. Bien-aimés, tenez-vous debout vous aussi. Nous aimerions prier pour vous et avec vous. Tu vis dans le péché. Tu vis dans la compromission. Merci pour toi qui s'élève. Merci encore pour toi aussi qui s'élève. Tu peux te cacher devant les hommes, mais tu ne peux pas te cacher devant ta conscience qui est en train de te dire, oui, tu fais ces choses. Tu mènes une mauvaise vie. Ne veux-tu pas t'élever là où tu es? Nous aimerions prier pour toi et avec toi aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne passez pas à côté de cet appel. Demain ne vous appartient pas. Décidez-vous d'abandonner cette vie-là. Venez à Jésus-Christ et confessez vos péchés. Et vous serez pardonné. Et vous garderez votre place en lieu sûr. Laissez-moi prier pour vous maintenant. Seigneur notre Dieu, je t'apporte premièrement
ceux qui se sont levés avant, agrège-le devant toi, pardonne leurs péchés, lave leur cœur dans ton sang précieux et donne-leur le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Change leur position et change leur condition. Ô Dieu, qu'ils deviennent dès cet instant enfants de la maison de Dieu et qu'ils marchent en nouveauté de vie. Je te prie aussi pour ceux qui se sont levés en deuxième position, te réclamant faveur sur leur vie, les pardons de leurs péchés parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont mené leur vie loin de toi tout en étant enfants de Dieu. Que tu les laves aussi dans ton sang précieux et que tu leur donnes la force de ne plus, Seigneur mon Dieu, revenir sur ces mauvaises choses. Glorifie-toi dans la vie des uns et des autres. Nous te bénissons, Seigneur. Oui, mon seul abri, c'est toi. Nous voulons te garder comme abri, notre lieu sûr. Gloire à Dieu pour des mots de prophétie que tu nous envoies de temps en temps. Mais Seigneur, la plus grande prophétie, tu nous l'as déjà donnée. C'est ce Saint-Livre. Aide-nous à rester attachés à ce Saint-Livre, à être des hommes et des femmes qui lisent, qui méditent la parole de Dieu, des hommes et des femmes de prière pour résister au mal. À toi gloire et honneur. Merci Jésus. Veuillez reprendre votre place. Que Dieu vous bénisse. Amen.